Alors là, pas de générique, pas de générique, pas de musique, parce que vous n'avez pas mis de... Si, vous avez mis une musique dans votre
Ah
vidéo. Ah
oui, une musique. Et quelle musique,
ah,
en
j'aurais
plus?
pu prendre la vidéo de la musique de la vidéo de Canard PC qui débarque sur Kickstarter. Donc Yvon Godet, et encore merci d'avoir accepté
On vient
cette
pas de quoi?
invitation. C'est super, je suis ravi. Hein, on a accueilli, même s'il semblerait qu'ils aient trop de boulot, on pourra en reparler après. Hein, mais Kalash et Pipo Mantis, hein, qui font partie de la rédaction de Canard PC. Mais on en a entendu parler, donc il y a quelques semaines déjà, vous aviez préannoncé que vous alliez lancer un Kickstarter pour faire un site web. C'est parti d'où cette idée et comment est-ce qu'on en arrive à la conclusion qu'il va falloir se lancer dans le crowdfunding pour avoir sa version, un vrai site en ligne?
Alors, c'est parti d'où le crowdfunding ou c'est parti d'où le fait d'aller sur le net?
Bonne question.
Sur le net, d'abord.
Allez,
Sur le net, ça remonte à loin, mais bon, grosso modo, c'est un projet qui est en cours disons de réflexion active depuis plus d'un an. Mais c'est quelque chose qui est dans l'air depuis au moins 2 ans. La difficulté ici, c'est que nous, on n'était pas tellement chaud pour partir sur le net à tout prix pour une simple question de business model. C'est-à-dire que oui, le net, c'est formidable, oui, c'est l'avenir sûrement, mais tant qu'on ne peut pas y gagner sa vie, pour le moment, on ne voit pas très bien comment, tout en gardant nos valeurs et notre façon de travailler, on ne voyait pas vraiment l'intérêt d'y aller. Donc voilà, après, les choses changent, le marché donne des signes qui sont vraiment intéressants. Il y a effectivement le succès d'un certain nombre de sites comme Arrêt sur Image, comme Mediapart, qui s'adressent directement aux abonnements qui sont payants, qui depuis plusieurs années font dire que ah, finalement, peut-être que la gratuité n'est pas le seul modèle. Mais c'est quelque chose qui, sur le jeu vidéo, était assez difficile à imaginer, parce qu'on nous serine depuis très longtemps que voilà, comment dire, le spectateur ou le lecteur, je ne sais pas comment il faut l'appeler sur le net, l'internaute de jeux vidéo est trop jeune, il n'a pas envie de payer, il est intoxiqué par cette idée que la gratuité, c'est la loi, etc. On n'y croyait pas des masses, d'abord parce que nous, on a quand même un lectorat qui, malgré tout ça, continue à acheter du papier. Donc on a en nous cette conviction que la qualité, il y a toujours de la place pour la qualité, et que si elle est payante, il y a forcément des gens qui sont prêts à payer à un moment ou un autre. Donc il a fallu que cette idée prenne un peu de poids. Le fait que Gamekult lance son offre mixte avec un certain succès, c'était un signe de plus.
Gamekult Premium, hein, on ne peut que conseiller, alors parce
Ah oui,
que
ça donne accès
les
vraiment
voilà.
ça donne accès des éléments, enfin des articles, des
Des
enquêtes, des
dossiers,
dossiers qui sont généralement, enfin qui sont très complets, plutôt bien faits, enfin aussi. Donc,
Voilà, donc
ouais.
là c'était quand même la première fois que voilà, l'audience jeu vidéo, on avait une preuve tangible qu'elle était prête à payer pour un certain nombre de choses. Donc c'était très intéressant pour nous, même si à cette époque-là, quand ils sont lancés, notre décision était quasiment déjà prise. Mais c'était un signe de plus. Et puis, il y a le fait que aujourd'hui, sur le jeu vidéo online, le modèle de la gratuité est en flamme. Enfin, voilà. Donc, il est dans
Oui,
une
et
impasse,
sans
très clairement.
flamme, ah oui, pour...
Il est dans une impasse. Selon moi, il est dans une impasse.
Pourquoi?
Risque structurel.
Parce que les revenus de la publicité sont en chute libre, parce qu'aujourd'hui, un certain nombre d'acteurs sur ce créneau-là sont obligés de choisir entre se vendre au plus offrant ou bien faire des compromis sur la qualité et sur l'intérêt rédactionnel dans une espèce de course à l'audimat qui fait que c'est plus possible. Enfin, voilà. Donc nous, de toute façon, ce modèle-là, on ne peut pas aller dessus. C'est incompatible avec notre façon de travailler. Donc c'est aussi, alors là on en arrive au Kickstarter, c'est l'intérêt d'une plateforme de crowdfunding comme Kickstarter, c'est de pouvoir dire, un, on a besoin de sous pour faire un site web, deux, on a besoin de savoir s'il y a un marché, hop, on a une réponse à ces deux questions vraiment, vraiment primordiales en un seul modèle. Donc c'est la raison de l'appel au financement participatif, c'est d'une part effectivement de réunir la somme pour pouvoir créer une plateforme qui soit digne de ce nom, qui soit professionnel. et le fait d'avoir une idée du nombre d'abonnés qui seraient prêts à répondre à cette offre de notre part. Parce que bon, pour une PME comme Canard PC, Presse Non Stop, c'est assez compliqué de se lancer dans ce truc-là et d'avancer l'argent pour financer un site web sans avoir aucune idée de ce qui attend derrière.
C'est une étude de marché temps réel.
Je ne sais plus où je le disais, mais c'est comme un sondage, mais où on vote avec sa carte bleue. Ouais. Donc, c'est magique.
Et du coup, là, le sondage, vous avez eu déjà des réponses qui sont très favorables.
On va spoiler la fin tout de suite. Hein. Ça a marché. Hein.
Ça a marché du feu de Dieu.
En moins de 6 heures, l'objectif de 60 000 euros a été rempli. Sachant voilà, c'est vous demandiez 60 000 euros pour. Alors on rappelle hein, pour ceux qui ne connaissent pas les plateformes de crowdfunding, mais il y a un objectif à atteindre pour les projets. Si cet objectif n'est pas atteint, les gens qui ont fait des promesses d'achat entre guillemets sont remboursés. Enfin, ils ne sont pas prélevés, ils ne sont pas débités, tout simplement. Et si cet objectif est atteint, les gens payent vraiment et puis les gens peuvent continuer à participer jusqu'à la fin du Kickstarter. Ça dure un mois à peu près.
Voilà, c'est au choix du projet. Nous, on l'avait fixé un peu moins d'un mois, trois semaines et quelques.
Et donc là, vous avez atteint votre Kickstarter votre objectif en moins de 6 heures et vous l'avez même doublé en 24 heures.
C'est ça, ouais. Et ça continue jusqu'au 30 juin.
Là, à l'heure où on enregistre, on est aux alentours de 170 000 euros pour 60 000 euros demandés.
Et on est et combien de contributeurs?
3100 ce matin.
D'accord.
3100 ce matin. Alors déjà, comment est-ce qu'on se sent d'ailleurs quand on voit ça?
C'est incroyable parce que bon, on l'aurait pas lancé si on n'avait pas cru que ça pouvait marcher. Mais avoir cette espèce de plébiscite et c'est surtout cet empressement à nous faire savoir, c'est pas seulement qu'on a réussi ou qu'on a doublé, c'est l'espèce d'empressement à nous faire savoir que oui, c'était une bonne idée, que oui, ils étaient prêts à y aller, que oui, ils voulaient absolument. Ça fait un effet, c'était une grosse surprise quand même. Nous, on s'attendait quand même à devoir un peu batailler, rameuter les troupes pendant un mois pour atteindre l'objectif et en espérant que ça marche.
Vous aviez vu toute la théorie du fonctionnement d'un Kickstarter où il faut atteindre 30% la première semaine, demander à ses contacts proches de participer.
Alors oui, c'est vrai qu'il y a des best practices, comme on dit en anglais. Et on sait, du point de vue statistique, que les projets qui n'atteignent pas 15 ou 20% dans les 48 premières heures ont très peu de chances de boucler leur financement, statistiquement. Donc oui, on savait tout ça, donc on était effectivement assez nerveux la première journée. On a été tranquillisés assez vite, du coup. C'est bien.
J'avais une question par rapport à liée à la périodicité. Donc vous allez passer sur le web, donc vous allez être présent tous les jours, 24 heures sur 24. Comment est-ce que vous allez gérer, donc aujourd'hui qui est un PC donc est mensuel, comment est-ce que vous allez gérer en fait ce passage à une exposition permanente? Est-ce que ça veut dire que vous allez devoir rafraîchir en permanence le site avec des informations qui peuvent être parfois futiles, qu'on va parfois retrouver chez le voisin? Comment vous allez gérer ça en fait?
Alors, la beauté du truc, c'est qu'on ne va pas le gérer du tout. la promesse qu'on fait sur ce Kickstarter, c'est de mettre le journal en ligne. Presque rien de plus.
Rien de plus.
Quasiment rien de plus. Alors, en réalité, on a beaucoup d'idées, mais on ne s'engage pas tellement avant de savoir justement comment on peut s'organiser. Mais le principe, c'est que c'est le contenu du journal papier qui va être mis en ligne sur le site web. Avec cette petite amélioration, c'est qu'il pourra être mis en ligne au fur et à mesure de sa fabrication, c'est-à-dire ne pas attendre évidemment la mise en kiosque. Ça nous donne la promesse d'avoir une dizaine de jours de contenu frais au fur et à mesure que la rédaction le fait. Mais la production strictement pour le web, c'est-à-dire comme tu dis, quotidienne au jour le jour, elle sera très faible. Elle sera en fonction de nos humeurs et de ce qu'on pourra imaginer qui est possible à ressources humaines constantes. Mais non, on ne se lance pas dans un site de news. C'est vrai qu'aujourd'hui, les sites de jeux vidéo sont contraints, pour des tas de raisons dont on peut discuter, mais à faire 10, 15, 20 news par jour.
Bien sûr.
Pour couvrir la soi-disant actualité qui, ouais, la plupart du temps, n'en est pas, en réalité.
Quatre nouveaux screenshots.
Oui, voilà. Voilà.
Donc ça, évidemment, on ne va pas se lancer là-dedans. C'est pas du... ça, d'abord, ça ne nous intéresse pas, donc on ne tiendrait pas longtemps. Et puis ensuite, ce n'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est au contraire d'apporter de la valeur ajoutée et d'apporter ce que nous, on sait faire sur le papier, sur le web. Donc c'est ce qu'on a proposé... lors du Kickstarter. C'est pour ça que la réponse surprend beaucoup ceux qui croyaient connaître ce terrain, parce que les gens sont prêts à avoir du contenu un peu décalé, mais avec du caractère, avec une forte valeur ajoutée. Et ils sont prêts à payer pour ça, même si ce n'est pas la news, même si ce n'est pas le truc dans l'instant. Qu'on trouve effectivement parfois.
Il y a aussi ce que vous proposez dans une certaine, dans la radicalité qu'on connaît, celle de Canard PC. Même si dans Canard PC Magazine, il y a un peu de pub, pas beaucoup. Là, ce que vous proposez est quand même relativement... Enfin, dans la galaxie jeux vidéo, ça n'existe pas. C'est un site web sans pub, sans partenariat, sans financement extérieur, en fait. C'est vraiment un site web financé par ses lecteurs.
Exactement, ouais. Au début, le projet était plus hybride que ça, c'est-à-dire qu'on s'était dit, bon, évidemment, les abonnés, on ne va pas leur balancer de la pub, ça n'aurait aucun sens dans le modèle actuel. Donc, pour les abonnés, le site serait sans pub, mais après tout, pour la partie gratuite, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre un petit bandeau de ci, de là, et puis à la réflexion, pourquoi le faire ? Aujourd'hui, les chiffres d'affaires publicitaires online sont en chute libre. Ouais. Donc, ce n'est pas quelque chose qui peut changer fondamentalement la donne sur le modèle économique. Donc, pourquoi embêter les gens avec ça ? Donc, on est parti sur un truc vraiment sans pub, donc 0% pub. Le contenu gratuit sur le site, et il y en aura pas mal, sera absolument libre de publicité. Et je pense que c'est en partie ce qui a plu. En tout cas, nous, on a beaucoup appuyé là-dessus parce qu'il nous semblait que c'était un des éléments différenciants. Et c'est un peu le cheval de bataille de Canard PC depuis très longtemps, cette non-dépendance à la pub, ou cette dépendance minimale à la pub. Donc on recite les chiffres qui sont le fait, aujourd'hui, la société qui édite Canard PC, elle vit à 15%, 15% de son chiffre d'affaires seulement vient de la publicité. En réalité, c'est moins que ça. Je n'ai pas refait les calculs sur 2005 parce que j'avais la flemme, mais l'année d'avant, c'était 12 ou 13%. Ouais. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que sur le chiffre d'affaires publicitaire de Presse Non-Stop, il n'y a que 12% qui vient du jeu vidéo. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires publicitaire de Presse Non-Stop, il vient du matériel, il vient des magasins. Les annonceurs jeux vidéo, les grands annonceurs de jeux vidéo, ne représentent que 12% de notre chiffre d'affaires publicitaire.
Ah oui, donc vraiment que dalle sur Presse
Non-Stop. Voilà, donc si on rapporte au chiffre d'affaires global de Presse Non-Stop, c'est 2-3% qui viennent de la publicité de jeux vidéo. Donc nous, en quelque sorte, on est déjà libre de ça dans une grande mesure. Et on propose juste de pousser le cran un poil plus loin sur le web.
J'ai une autre question qui est liée aussi au passage sur Internet. Donc vous dites que c'est donc le contenu du journal qui va être mis en ligne. Mais alors qu'est-ce que vous faites de l'usage de la vidéo, de la vidéo qu'il y a dans jeux vidéo, par exemple, où j'imagine que vous allez bien quand même illustrer les articles, enfin ne serait-ce que ça, illustrer les articles par des vidéos. Non. Pas, même pas.
A priori non. On a fait très attention de ne pas faire de promesses là-dessus, ni sur des podcasts comme celui-ci, ni sur de la vidéo qui est le nouvel Eldorado, soi-disant, des sites web. Il y a plein de raisons à ça.
Franchement, Ned Sabet, c'est pipeau sur Twitch. Moi, je ne veux pas dire. Hein. C'est une idée comme ça, hein, mais tu les mets tous les deux. Déjà, mettre Ned Sabet sur Twitch, ça serait pas mal. Hein,
ça serait une sorte d'exploit, quand même.
Voilà. Il est déjà venu dans Silence on joue, ce qui était une sorte de couronnement absolu. Mais,
À condition qu'il n'y ait pas de photos ni de vidéos.
Oui, voilà.
je vois très bien. Non, après, il y a une... Je vais être vieux jeu et un peu casse-pied, mais faire de la vidéo, pourquoi faire ? Si c'est pour montrer quelqu'un qui joue, quel est l'intérêt ? Sans même parler du fait que tout le monde le fait et qu'on peut trouver mieux ailleurs. Faire une émission, peut-être, mais il faudrait un concept, il faudrait être sûr qu'une émission de Canard PC apporte quelque chose par rapport à une émission qui existe déjà, comme celle de Gamecube, par exemple. On n'est pas dans le... On n'est pas une société technologique, on n'est pas dans la question du format, on est dans la question du quel contenu, quel sens à ce contenu et qu'est-ce que nous, on peut apporter à ce contenu. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de projet de vidéo, il n'y a pas de projet de podcast. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura jamais. Mmh. C'est évidemment des discussions qui ont lieu à intervalles très réguliers depuis 1 ou 2 ans. Mais tant qu'on n'a pas trouvé un format et bêtement quelque chose à dire avec ce média-là, je ne vois pas l'intérêt de se lancer là-dedans. Surtout que c'est quand même très exigeant, mine de rien, techniquement. C'est-à-dire que pour faire quelque chose qui ne ressemble pas à un contenu amateur, au sens noble du terme, mais amateur au sens technique, il faut finalement beaucoup de moyens. Et quand on entend faire payer les gens, ce qui est notre cas, on ne peut pas se contenter de ce que fait quelqu'un qui le donne gratuitement. Donc, il y a une exigence de ce côté-là qu'on mesure pleinement et qui demande des moyens. Et encore une fois, un modèle économique que, personnellement, je ne vois pas bien pour l'instant.
Ouais.
Alors, si demain, on a 10 000 abonnés online et qu'on se dit, bah, ces abonnés, on va leur donner un plus pour que l'abonnement soit encore plus intéressant. Mais alors, du coup, ça veut dire que la vidéo, il faut la réserver au premium. Du coup, techniquement, derrière, ça veut dire encore un certain nombre de choses. Bref, c'est assez compliqué. Nous, notre métier aujourd'hui, c'est de faire du contenu rédactionnel payant. Je pense qu'on le fait bien, sinon on aurait disparu depuis le temps. Et donc, c'est ça qu'on va apporter sur le web. Je pense qu'en échange, le web va nous apporter autre chose. C'est-à-dire que le fait d'avoir cet outil à disposition, on ne va pas pouvoir s'empêcher de jouer avec. J'en suis quasiment sûr. Même si on ne s'engage pas du contenu supplémentaire énorme, il va y en avoir, c'est fatal. Donc, je pense que ça va influencer la pratique aussi de ce qu'on fait au jour le jour.
Ouais. Ouais, j'ai une autre question aussi. Il y a beaucoup de journaux. Quel est l'espace? Est-ce que vous allez dédier un espace aux commentaires? Il y a beaucoup de journaux, alors dans la presse généraliste, qui de plus en plus ferment les commentaires, qui sont envahis par les trolls, qui n'ajoutent absolument rien à l'article. Est-ce que vous allez ouvrir un tel espace ouvrir des espaces aux commentaires ou pas?
Alors,
déjà un forum.
Oui, on a déjà un forum.
Commentaire sous chaque article.
Alors, non et oui. C'est-à-dire que, oui, il est absolument indispensable aujourd'hui. Je ne conçois même pas qu'on puisse aller sur Internet sans qu'il y ait un espace de retour de la part des lecteurs. Donc, voilà. Maintenant, l'abonné, il ne paye pas pour avoir l'avis de DarkNeo66 sur un article de Canard PC. Donc on ne mettra pas les commentaires sous les articles. À chaque article correspond un fil de discussion sur notre forum, où nous-mêmes nous allons, et où donc la discussion peut se faire. Mais c'est deux espaces qui sont différents.
Hyper favorable à ce modèle-là.
Moi aussi.
C'est bête, bah, là on sort du sujet, mais juste j'ai une petite parenthèse, mais c'est le meilleur moyen pour justement éviter les trolls et les gens qui s'expriment pour ne rien dire, parce que c'est décorrélé, et en fait je me suis rendu compte que le design même d'un forum de discussion, où il faut s'abonner en tant que participant à un forum de discussion, était un premier filtre, en fait. C'est parce que tu as beaucoup plus l'impression de rentrer dans une discussion, justement, et tu es moins incité à faire du trolling de bas étage et ce genre de choses. En tout cas, moi, sur l'expérience que j'avais sur écran.fr et sur d'autres, j'avais vraiment remarqué qu'il y avait une différence de contenu entre les commentaires de Libération, qui étaient des commentaires sous l'article, et les commentaires d'écran, qui étaient dans un forum, et je trouvais que c'était vachement bien.
Oui, nous, on y tient beaucoup. C'est pas tellement... parce qu'on peut nous reprocher un peu d'arrogance et de dire oh, « on va pas mélanger les torchons et les serviettes ». C'est pas tellement ça, c'est plutôt de pas mélanger les espaces de discussion, en fait. Il y a un endroit où la rédaction donne son avis, présente son contenu, celui pour lequel on a payé, et puis il y a un endroit où on échange avec la rédaction et les autres sur ce contenu. Ça ne me semble pas nécessaire de les mêler, et c'est ce qu'on fait en fait depuis un moment, et on va continuer dans cette voie-là. Il n'est pas du tout prévu. Alors, il y aura bien sûr des retours sur les articles, la possibilité de les mettre en favori, la possibilité de savoir ce qui génère le plus de commentaires. On mettra le nombre de commentaires, par exemple. Mais effectivement, on les affiche pas directement dessous.
Pour revenir, on va revenir un peu aux fondamentaux.
Absolument, c'est une bonne idée.
Non, mais juste pour comprendre, parce qu'il y a peut-être de nos auditeurs qui ne connaissent pas Canard PC ou qui l'ont lu peut-être une fois il y a longtemps. Pour revenir, juste très rapidement, comment s'est créé ce journal qui était hebdo dans un premier temps, qui venait de nulle part, enfin qui était un espèce d'ovni, complètement un ovni d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous raconter juste rapidement les débuts pour...
Oui, alors Canard PC, il est né en 2003. avec cinq journalistes dont je faisais partie, qui étaient issus d'un magazine qui s'appelle Joystick, qui était le magazine phare des années 90 sur le jeu vidéo, qui appartenait au groupe Hachette, et que le groupe Hachette a décidé de vendre à son principal concurrent dans le secteur, qui était le groupe anglais Futur, qui avait une filiale française. Au moment de la vente de cette filiale d'Hachette, qui éditait Joystick, Joypad, PlayStation Magazine et DVD Magazine, la plupart, une écrasante majorité des journalistes ont refusé d'aller travailler pour le nouvel acquéreur. Parce qu'on les connaissait bien, c'était nos concurrents depuis un moment, ouais. On savait comment ils travaillaient, on ne voulait pas y aller. Donc,
Futur a traîné avec lui une sale réputation, jusqu'à ce qu'il ferme d'ailleurs et qu'il revende tout.
Donc, cinq des anciens de Joystick ont décidé de monter une nouvelle société et un nouveau magazine. C'était Canard PC, c'était en 2003, et c'était un hebdomadaire qui valait 1,90€ et qui faisait 32 pages en papier journal.
Oui, en papier journal, c'est vrai.
Voilà, c'était moche. voilà, on s'est lancé comme ça. Ça a été une absolue catastrophe. Hein. On a fait un four terrible. On a ramé pendant des années. Mais l'idée, c'était, à l'époque, on est en 2003, on est après l'explosion de la première bulle Internet. Donc, le modèle économique des sites web, il a pris un peu du plomb dans l'aile. Les journaux se cassent un peu la gueule, mais on se dit que bon, la partie n'est peut-être pas jouée. Donc nous, on arrive avec cette proposition en disant « tous les autres magazines sont mensuels, on arrive avec un hebdo et on fait le lien entre les sites web qui sont un peu balbutiants et qui font l'activité quotidienne, les magazines qui font du mensuel, nous on est entre les deux et voilà.
Bon, » Et toujours orienté PC à l'époque.
Alors à l'époque, c'est très PC. Aujourd'hui, Canard PC traite la console et le mobile. Mais à l'époque, d'où le nom, c'est Canard PC. Et on se dit « pourquoi pas, on va voir ». On n'a pas besoin, on est cinq, on n'a pas besoin de vendre des kilos. Et puis on vit dans cette espèce d'illusion qu'on a rassemblé les meilleures plumes de Joystick, qui est un magazine qui fait presque 100 000 ventes. Donc on va fatalement attirer un lecteur sur 10, un lecteur sur 20. Sauf qu'à l'époque, y a pas Facebook, c'est 2006. Il n'y a pas Twitter, c'est 2008 ou 2009. Donc les moyens de se faire connaître n'existent pas. Ouais, voilà. C'est un sous-forum chez Gamekult qui a la gentillesse de nous héberger pour qu'on fasse un peu les claquettes. Mais voilà, c'est tout. Donc ça commence très 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 bas. Je crois qu'on a vendu 2500 ou 3000 exemplaires du premier numéro. Et puis pendant 3 ans, on rame dur. Jusqu'à décider de passer tout début 2007 en bimensuel, c'est-à-dire 2 fois par mois au lieu d'une fois par semaine, où là, la situation s'améliore parce que les coûts sont bien moindres.
Et on passe en magazine quand même.
Et on passe en magazine, oui, en quelque sorte.
Bon, quand même, vous avez une vraie couverture.
Après, il y a eu plusieurs évolutions et l'année dernière, la nouvelle formule fait qu'on a une couverture rigide, etc. Aujourd'hui, ça fait 84 pages.
Moi, j'aime beaucoup. Enfin, moi, je les vois souvent passer la sorte Twitter. Moi, j'aime beaucoup vos couvertures. Je trouve assez percutant. Enfin, elles expriment bien le ton qui est à l'intérieur.
Mais déjà, à l'époque, l'idée, c'est qu'on a mis un peu le souk dans les rapports entre les médias et l'industrie du jeu vidéo, puisque on part d'une situation où tous les mecs sont mensuels. Il y a 10 ou 12 couves par an et elles sont toutes négociées avec les éditeurs. Et nous, on arrive tout d'un coup, on fait 4 couves par mois et on ne demande rien à personne. Et ça, c'était du jamais vu. Enfin, voilà, ça ne se faisait pas, quoi. C'est une tradition qui a continué à Canard PC. Aujourd'hui, Canard PC fonctionne comme un journal normal. Il ne demande pas forcément à dealer chacune de ses couvertures. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des arrangements ponctuels avec tel éditeur en disant « Ah, mais si on peut avoir cette opportunité, est-ce que tu nous donnes la couve ?» Mais pourquoi pas si le jeu nous intéresse ? Ce n'est pas la question. Mais en tout cas, c'est une grosse rupture déjà à l'époque dans la dépendance des médias vis-à-vis des éditeurs. Une dépendance d'ailleurs que critiquaient énormément les jeunes sites web de l'époque qui arrivaient en brandissant haut et fort le fait que, voilà, eux, ils rompaient avec cette petite tradition d'arrangement. Je pense à Gamekult qui est arrivé là, comme un chien fou dans un jeune qui... Et qui s'en est beaucoup plein.
Justement par des gens qui ne venaient pas de la presse spécialisée, donc qui ont créé ça à partir de rien sur leur propre vision du média. Ouais.
Et du coup, évidemment, quand on arrive comme ça, le chiffre d'affaires publicitaire du journal, pardon,
est assez limité.
Est fatalement limité. On ne peut pas trop compter dessus. Mais nous, l'orientation au départ, c'est plutôt on crée une entreprise. Aucun d'entre nous n'a l'expérience de la création d'entreprise. On sait faire un journal, enfin on croyait, On sait écrire, mais sur les 5 fondateurs, personne n'a le gène du business ou du vendeur de pub dans le corps. Donc on se dit, on ne va pas faire dépendre de quelqu'un d'extérieur, une régie, un élément clé du business model. Ouais. Donc il faut créer un business model, un modèle économique, pardon, qui ne dépende pas de ce truc-là qui nous échappe. Voilà, c'était ce raisonnement très pragmatique qui a fait que Canard PC, dès le départ, compte pas beaucoup sur la publicité.
Et donc, cette ligne éditoriale qui est assez unique, qui est assez rentre-dedans, radicale et tout ça, c'est quelque chose que vous avez construit au fur et à mesure ou c'est quoi ? C'est un truc, à force de se démarquer de ce qui se fait ailleurs, on devient plus fort sur certains points, sur certains, le côté poil à gratter, même si je déteste cette expression, je ne sais pas pourquoi j'utilise d'ailleurs. Bref. une sorte de facilité intellectuelle qui s'est passée là, en direct. Mais ce côté, ouais, vraiment, rentre dedans sans concession, c'est quelque chose qui est venu au fil des recrutements, les gens qui vous ont rejoints ont adhéré, sont allés plus loin que vous
Alors oui, c'est quelque chose qui était présent dans le joystick des années 90, ouais. Malgré tout, parce que un des gros avantages de joystick, c'était justement, paradoxalement, de faire partie d'un très gros groupe, qui était le groupe Hachette. Et donc le groupe Hachette, à partir du moment où il gère Paris Match, les petites récriminations des éditeurs de jeux vidéo, ça lui passe au-dessus de la tête. Donc voilà. Donc il y avait ce ton déjà assez virulent dans Joystick, avec quelque chose de très appuyé sur le style des articles, sur la personnalité des gens qui écrivaient. Donc on a pris ça parce que c'était ce qu'on aimait faire et on l'a poussé un cran au-dessus parce que malgré tout, chez Hachette, surtout quand on est dans une filiale Hachette Disney, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Donc on s'est dit, on va pousser un cran plus loin pour se faire plaisir et pour se démarquer. C'est aussi c'est la tactique du challenger, d'une certaine manière. Ouais. C'est de dire, moi, je vais pousser là où tu peux pas aller. Donc, c'est présent dès le départ, ça. Et après, le fait d'avoir cette ligne éditoriale un peu, d'une part cohérente, je crois, et puis très marquée, fait qu'il y a des personnalités qui finissent par être attirées dans cette espèce de sphère de gravitation. Et on a eu des gens qui étaient effectivement de fait plus jusqu'au boutiste que nous au départ, qui sont venus, qui ont apporté quelque chose, et ça se construit petit à petit. Canard PC aujourd'hui, je pense que c'est la 4e ou 5e équipe éditoriale différente en 13 ans. Et pourtant, je crois que le ton a très peu évolué finalement et que l'ambiance est restée la même. Parce que on a réussi, c'est ce qui est le plus difficile dans un journal. On a réussi à garder cette ligne assez forte et à ce que les gens qui arrivent se prennent dans ce jeu-là. On en a tous connu des journaux qui ont eu des heures de gloire avec des équipes extraordinaires pendant 3, 4, 5 ans. Ouais. Et puis tout d'un coup, il y a un ou deux départs et tout se casse la gueule et le truc ressemble plus à rien après. Mais c'est une chance.
Oui, non, c'est assez impressionnant. L'avenir maintenant, ça se présente comment ? Parce que ça a dû quand même pas mal changer la semaine dernière, pour le coup. Salut, alors on est un magazine, oui, on sort tous les 15 jours, on a notre lectorat, on a notre communauté, et puis là, bim, on se retrouve, je le répète quand même, en tête des tendances monde de Kickstarter. C'est quand même pas rien de retrouver Canard PC à cette place-là.
Et surtout un projet franco-français, parce que Kickstarter, c'est quand même une plateforme très anglophone.
Et justement, à propos de monde anglophone, est-ce que vous avez un peu des modèles, peut-être, vous avez évoqué Mediapart et le cas de Mediapart et d'arrêt sur image, est-ce que vous avez des modèles outre-Atlantique ou outre-Manche, en fait ?
Non, absolument
pas du tout.
Il n'y en a pas. Hein.
Il y en a pas. Alors, des sites payants de jeux vidéo, à ma connaissance, il n'y en a pas. Mm. Et dans la presse de jeux vidéo, des équivalents de Canard PC, non, vraiment pas. La presse anglo-saxonne fait plutôt figure de contre-exemple à cet égard-là.
Ouais, pour le coup, le truc le plus proche qui existe déjà, c'est Gamecult Premium. Enfin,
en quelque sorte, oui. Dans l'état d'esprit.
Dans l'état d'esprit de faire des dossiers, des trucs assez libres, assez longs et tout ça.
Alors, par rapport à l'état d'esprit aujourd'hui, c'est vrai qu'après ça, on a une grosse responsabilité d'abord. C'est-à-dire qu'on a fait une promesse, il faut qu'on arrive à la tenir et il faut qu'elle soit à la hauteur des espérances. Donc, les 6 mois qui viennent vont être très denses pour construire ce site web et faire en sorte qu'il plaise et qu'il apporte malgré tout suffisamment de petites choses. Bon, on a quelques idées qui amusent, qui soient utiles et qui sortent... nécessairement de ce à quoi on est habitué aujourd'hui sur le web, parce que voilà, ce ne sera pas un site web comme tout le monde en fait aujourd'hui. Ne serait-ce que parce qu'il y a un journal derrière et que voilà, on essaie de réinventer un peu ce système du magazine avec articles payants, articles gratuits, qui moi me satisfait pas aujourd'hui. Ce qu'utilise que ce soit l'équipe, Le Figaro, Le Monde, avec ce petit machin. Ah, je vais cliquer sur un article premium. Je clique et j'ai que 3 lignes et voilà, ça m'énerve. Donc voilà. Donc on travaille beaucoup à réfléchir comment améliorer ce système et comment trouver une meilleure symbiose entre le gratuit et le payant et que ça fonctionne sur autre chose que ce mécanisme complètement primaire de frustration.
Après, vous avez des gens qui connaissent bien le web dans votre équipe.
On a des gens qui connaissent bien le web et qui veulent surtout plus y travailler. Donc, ce n'était pas les plus faciles à convaincre qu'il fallait se lancer. Non, mais je suis assez confiant sur le fait qu'on va arriver à le faire à notre façon et différemment et que ça va bien marcher. Mais bon, c'est pas mal de bouleversements. C'est aussi pas mal de bouleversements en interne parce qu'aujourd'hui, le process de fabrication du magazine n'est pas du tout adapté à une mise en ligne facile. Donc, il faut qu'on... Voilà, il faut qu'on mette en place un certain nombre d'outils internes. C'est très casse-pied, je ne vais pas détailler. Mais voilà, pour que les journalistes puissent continuer à travailler dans les conditions qu'ils aiment, c'est-à-dire pas directement online sans pouvoir rien faire, mais pour autant que ça soit intégrable facilement. Y a beaucoup, que dire d'autre, sinon il y a beaucoup de travail.
Ouais.
Mais c'est une perspective formidable. Enfin, aujourd'hui, on a un public qui nous demande de passer en ligne, qui est prêt à payer pour, qui nous fait confiance. Je ne vois pas qui, même dans la presse d'une manière plus générale, est dans une situation plus intéressante que la nôtre aujourd'hui.
Bah, vous êtes un tout petit peu une anomalie. Hein.
Oui.
C'est ça. Hein. C'est une sorte de dissonance.
c'est exceptionnel ce qui se passe. Ouais. Enfin, je veux dire, même du point de vue... Pour être ronflant d'homme de presse, enfin de type qui aime ça et qui crée des journaux et qui les regarde vivre, et qui, c'est incroyable. On est vraiment, on a toutes les cartes en main pour créer, et on a une sorte de blanc-seing de la part de nos lecteurs pour créer quelque chose à notre façon sur le web. Et ils sont d'accord. Ils nous ont pratiquement signé carte blanche en 24 heures pour qu'on fasse ce qu'ils aiment, et ce qu'on veut sur le net.
Sachant que ce qu'ils aiment, c'est vu qu'ils aiment ce que vous faites et que vous faites ce que vous aimez.
Exactement.
L'équation est
grosso modo un peu qu'à notre tête. Donc voilà, ils veulent qu'on en fasse qu'à notre tête sur le web et on ne peut pas rêver mieux.
Moi, je veux dire, je faisais partie de ceux qui se sont inscrits sur Kickstarter dans les 24 premières heures.
C'est très bien.
Et en fait, le truc, non, mais c'est juste pour dire que moi, je suis ravi parce que. N'étant pas un acheteur de journaux papier et surtout pas de journaux jeux vidéo, sauf quand je prends le train, c'est mon habitude, je prends toujours Canard PC quand je prends le train et j'y vais, mais autrement, je n'ai pas d'occasion de les acheter et de les lire, et c'est vrai que j'étais ravi de... Parce que moi, je suis comme Joël, je vois passer les couvertures sur Twitter et à chaque fois, je me dis « Ah, je suis intéressé, j'aimerais bien... » Et puis, voilà. Donc là, j'étais ravi de pouvoir, maintenant, quand je verrai une couverture... Maintenant, dans 6 mois, quand j'aurai une couverture de Canard PC sur Twitter, je pourrai aller voir en ligne directement les dossiers.
Voilà. Et
ça, c'est une excellente nouvelle. Je suis vraiment
ravi. On va faire de gros efforts pour que ce soit très pratique sur smartphone et sur tablette. On a conscience que c'est indispensable aujourd'hui. Donc voilà, on n'oublie pas les grands écrans, mais on n'oublie pas non plus les gens qui sont dans le métro.
Bon, je ne veux pas vous mettre la pression, mais vous n'avez pas intérêt à vous planter.
Ça ne se plantera pas. Ça fait 10 ans que tout le monde fait des sites éditoriaux qui tiennent la route. Il n'y a pas besoin que nous, on n'y arrive pas. Même si notre track record sur le net n'est pas extrêmement brillant jusqu'à présent.
Allez, on vous fait confiance quand même.